France Inter.
Aujourd'hui, requin du Groenland, les secrets de sa longévité, racontés par
Éric Lua, professeur à l'école pratique des hautes études, éco-éthologue.
Et Pierre Delaroche, étudiant de doctorat en sciences cardiaques à l'Université de Manchester.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il a dû s'écouler 3,5 milliards d'années entre l'apparition de la vie primitive dans la mer et le coup de fil de mon ami le pêcheur Hugo Ashford, un samedi soir de juillet à Oslo. Tu as vu les prévisions météo pour la semaine prochaine ? Nous attendions depuis longtemps des conditions météorologiques bien précises. Il nous fallait le moins de vent possible dans la zone maritime située entre Bodø et les îles Lofoten, une ville et un archipel situés dans le nord-ouest de la Norvège, un peu au-dessus du cercle polaire. Hugo avait vu la plupart des poissons et des animaux marins, mais il n'avait jamais vu ce requin géant. Moi non plus d'ailleurs. Hugo n'eut donc aucun mal à me convaincre de pêcher un requin du Groenland. Qui sait que dans les eaux profondes du Vestfjord nagent des requins du Groenland qui peuvent atteindre 7 à 8 mètres de longueur et peser 1200 kilos. Le bateau file à vive allure, la mer est calme. Je fais un trou dans les sacs de déchets qui sont remplis d'intestins, de foie, de cartilage d'os, de graisse et de viande de bœuf tout en vomissant copieusement. Je jette ensuite les sacs par-dessus bord. Tout à coup, une ombre géante apparaît, 4 à 5 mètres sous le navire. Le requin est énorme, il mesure plus de 4 mètres de la tête au bout de la queue et pèse sans doute dans les 800 kilos. Avec ce poids et cette taille, ce requin a probablement plus de 100 ans. Un des grands mystères est l'âge des requins du Groenland. J'ai un jour examiné un spécimen dont l'âge était estimé à au moins 272 ans. Le cœur de notre squale intéresse les scientifiques qui cherchent à comprendre pourquoi le requin du Groenland peut vivre aussi vieux. Un des objectifs de notre expédition est de mieux comprendre la reproduction des requins. En nous installant donc des émetteurs GPS sur tous les requins femelles que nous capturons, ils nous indiqueront la position du requin après que nous l'aurons remis en liberté. Dans quelques mois, nous en saurons plus sur les déplacements du mystérieux requin du Groenland. Ce texte est extrait d'un livre de l'écrivain Morten Strøknes, Le livre de la mer, publié en français chez Gallimard, et la longévité extraordinaire du requin du Groenland, et bien c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
On va plonger pour essayer de rencontrer le requin du Groenland.
Ce requin du Groenland, les plongeurs d'Under the Pole ont déjà eu la chance de croiser sa route il y a 2 ans, car cette légende des mers se laisse rarement approcher.
Reportage de France 2 en 2017. Bonjour Éric Lua.
Bonjour Mathieu, bonjour aux auditeurs aussi.
Et aux auditrices aussi.
Et aux auditrices, pardon.
Nous sommes ensemble en studio et bonjour à vous, Pierre Delaroche, qui est en duplex à Saint-Nazaire. Bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard, merci de m'inviter.
Des requins vivant actuellement dans les eaux de l'Arctique et qui auraient été des contemporains de Michel-Ange ou Nicolas Copernic au XVIe siècle, voilà de quoi on parle aujourd'hui dans ce qu'on évoque, cette longévité exceptionnelle du requin du Groenland, Éric Lua.
Oui, qui est vraiment exceptionnel, puisqu'on va, y revenir dessus. On est pratiquement au-dessus de 400 ans, peut-être près de 500. Alors que si on prend le challenger, je dirais, sur le podium, ben, il faut redescendre finalement assez bas. On est avec la tortue des Galapagos, qui est à peine, si je peux m'exprimer, à 250 ans.
Ouais, donc des âges canoniques, et on va expliquer justement comment la science nous donne des éléments pour essayer de le comprendre. Des chercheurs de l'Université de Copenhague, en 2016, avaient estimé, donc Pierre Delaroche, possible que ces requins puissent vivre donc entre 272 et 512 ans. Est-ce que d'autres vertébrés donc sont capables d'une telle longévité sur la planète ou vraiment le suivant, c'est la tortue des Galapagos ?
À ma connaissance, c'est plutôt la baleine boréale qui est capable de vivre jusqu'à 200 ans. Sinon, après, il faut regarder chez les mollusques. Il y a un bivalve qui vit dans l'Arctique et capable de vivre 500 ans.
Donc ce sont des âges impressionnants et Pierre Delaroche, vous avez consacré votre thèse au vieillissement du cœur du requin du Groenland. Expliquez-nous dans quelles conditions vous avez travaillé autour de ce poisson géant.
Alors moi j'ai essentiellement fait des travaux informatiques, où je me suis intéressé à reconstruire en 3D les éléments enfin, les organites dans les cellules cardiaques du requin du Groenland. Donc, je m'intéressais au noyau et aux mitochondries. Donc finalement, j'ai pu partir pendant 2 semaines en expédition au Danemark et aussi au Groenland. Mais sinon, ouais, c'est essentiellement du laboratoire et de l'ordinateur.
Et partir en expédition sur les traces du requin du Groenland, ça consiste en quoi alors exactement? Il faut essayer de les croiser, voire même de les pêcher pour la science?
Bah, c'est surtout, oui, les pêcher pour la science. Et c'est beaucoup d'huile de coude, en fait. Ça, c'est artisanal, la manière dont c'est pratiqué. Donc, il faut trouver un appât. Vous avez parlé de viande de bœuf putréfiée. Donc, c'est un peu ça. C'est le requin du Groenland dépend essentiellement de son odorat comme son sens principal. Il aime beaucoup les odeurs,
pestilentielles.
Pestilentielles, voilà, si vous voulez. Donc, ça peut être de la viande de phoque ou même au Danemark, on a utilisé de la viande de baleine qui avait été échouée, une baleine qui avait été trouvée échouée. Et ce sont les mets préférés de requin du Groenland. Et après, du coup, on le pêche à la palangre. Donc, on met une ligne, en fait, lestée par des roues de voiture. Et en fait, donc les lignes sont laissées 24 à 48 heures en mer, et ensuite, il faut revenir les chercher. Donc, au Groenland, ça peut être compliqué, parce qu'd'ici là, un iceberg peut être passé pour avoir enlevé les lignes. Donc, ce n'est pas une science exacte non plus de pêcher le requin du Groenland.
L'idée étant de pouvoir les remettre à la mer ensuite?
Alors oui, en fait, moi j'ai travaillé en collaboration justement avec l'équipe danoise que vous avez citée,
oui.
Donc, notamment le leader, c'est John Fleng Stephensen. Donc il pratique la pêche d'une manière raisonnée, donc avec un souci de conservation, sachant que systématiquement, les individus qui sont repêchés sans être trop blessés sont remis en mer, enfin, en liberté, équipés d'une balise justement pour connaître mieux leur déplacement.
Leur déplacement, leur reproduction, comme on le disait tout à l'heure, et puis aussi faire des travaux, on va y revenir hein, évidemment avec vous, sur leur longévité exceptionnelle. Éric Lua, vous qui êtes spécialiste des requins, cette espèce-là, ces requins du Groenland, qu'est-ce que ça représente dans ce monde des requins en général?
Alors je dirais, il est un petit peu à part, honnêtement, parce que heureusement, il y a des spécialistes comme Pierre qui s'occupent de lui, avec essentiellement des Danois, évidemment, qui sont très présents sur le Groenland. Pourquoi il est à part? Parce qu'évidemment, il a cette longévité qui est vraiment exceptionnelle et qu'il faudrait arriver à comprendre. Et je pense qu'avec Pierre, on va essayer de vous y aider. Mais il est aussi un petit peu excentré. Hein, c'est-à-dire qu'il fréquente quoi? Les eaux de Arctique, subarctique. Et si je peux me permettre, c'est quand même assez extrême hein, sur la planète. Alors que j'ai envie de dire, je n'ai jamais rencontré de spécialiste du requin du Groenland, alors que j'ai rencontré de multiples spécialistes des autres requins qui, eux, peuplent, je dirais, le reste des océans.
On l'appelle le requin dormeur, c'est ça? Parce que c'est son nom d'ailleurs scientifique.
Alors ça, c'est lié probablement à l'impression qu'il dégage. Hein. Il est quasi léthargique. Hein. On a même calculé la vitesse, elle est de l'ordre de 1 mètre seconde, voyez. Alors c'est probablement... Et on s'est posé la question, et ça joue probablement aussi le fait de vivre dans de l'eau très froide.
Ouais.
Ça ralentit le métabolisme, ça engage ce requin, je dirais, à économiser l'énergie. Bref, tout ça reste très cohérent, mais effectivement il ressemble à quelque chose qui se déplace vraiment très très lentement. Quoi.
Et on ne le croise que dans les eaux froides de l'Arctique ou on peut
Alors non, si, il fait partie d'une famille où il y a seulement 2 genres, et dans son genre, a priori, il y avait, alors je dis bien, il y avait jusqu'à récemment 3 espèces, on pense qu'il n'y en a plus que 2. Alors il y a ce requin qu'on trouve au Groenland, donc, et cette espèce-là est confinée dans ces eaux froides, mais il y a une, voire 2 autres espèces, donc Somniosus, donc Antarcticus et Pacificus, et comme le nom l'indique, et la référence géographique, on peut le trouver à chaque fois très profond dans des eaux froides, mais dans des eaux plus tempérées en tout cas que l'Arctique.
Ouais, donc le dormeur, hein, c'est ça, quelle que soit sa région.
Voilà, les anglo-saxons parlent de sleeper, effectivement, ouais. Ce qui veut dire dormeur.
Pierre Delaroche, donc on le croise principalement dans les grands fonds. Jusqu'à quelle profondeur, d'ailleurs, on peut trouver ce requin du Groenland?
Alors oui, ce que dirait Clua est correct. Après, j'ajouterais que, effectivement, le requin du Groenland il est plus abondant dans les régions polaires. Mais cela dit, il peut trouver, par exemple, pour être profondeur, bah, il a pu trouver un maximum de 2600 mètres de fond, mais dans le golfe du Mexique.
Mmh.
Et en fait, même il y a 2-3 ans de ça maintenant, un requin du Groenland a été pris en photo au large de Ouessant, donc il semblerait qu'il soit... qui migrent en fait dans l'Atlantique également.
Ouais, donc on a quand même une aire de répartition assez large, Éric Lua ?
Oui, tout à fait. De toute façon, en restant, si je peux me permettre, au fond de l'eau, la température reste plus constante et on peut se déplacer effectivement dans des destinations plus méridionales. Et puis, on est en droit de se demander, est-ce qu'avec, malheureusement, les changements climatiques qui touchent notre planète, est-ce que ça ne va pas évoluer ? Et on pense que ça va évoluer. Mais c'est une force, je dirais, c'est cette espèce-là, de pouvoir justement... développer son aire de répartition alors qu'elle est en train de se rétrécir de fait pour d'autres espèces.
On en parlera évidemment avec vous. Est-ce que cette vie dans les grandes profondeurs, Éric Lua, l'a dotée de particularités morphologiques, alors pour s'adapter précisément aux grandes pressions, au froid extrême?
Alors, il y a quelques particularités. Je dirais que la première qui, moi, m'interpelle, c'est que, finalement, c'est très sombre, au fond, et donc, il utilise très peu, comme l'a dit Pierre, la vue. Il est surtout sur de l'olfaction, probablement aussi sur de l'audition, parce qu'il faut quand même le dire, l'audition, voire la mécanoréception, qui sont propres aux requins, sont des sens beaucoup plus précieux, finalement, que pour nous, la vue, qui est évidemment très importante. Il y a même une anecdote qu'on peut citer sur ce requin-là, c'est qu'il est souvent victime d'un parasite qui vient se loger justement dans la cornée, et on s'est aperçu que finalement il y avait de très nombreux individus qui étaient aveugles. Bon, alors évidemment c'est pas bien d'être aveugle, mais ça nous pénalise beaucoup à nous sur Terre, alors que ça pénalise beaucoup moins le requin du Groenland dans la quasi-obscurité dans laquelle il se meut tous les jours.
Pierre Delaroche, d'autres particularités morphologiques justement chez ce poisson des grandes profondeurs?
Si vous voulez, on peut parler du foie, qui est un organe essentiel chez les requins des profondeurs. Par exemple, chez les poissons osseux, ils utilisent plus une vessie natatoire pour explorer les grands fonds. Et, tandis que chez les requins, en fait, le foie est un organe très riche en matière grasse, si vous voulez, en lipides. Et ce qui fait que ça lui permet d'assurer une flottabilité neutre. Donc, grosso modo, ça crée une sorte de poussée d'Archimède qui lui permet de se stabiliser en profondeur, tout en économisant l'énergie dépensée au déplacement.
Un foie énorme, hein, parce qu'il peut peser plusieurs centaines de kilos, c'est ça, hein ?
Maximum, je crois que c'est 300 kg, donc ça pourrait représenter le tiers de la masse d'un requin du Groenland.
Ouais. Éric Lua, est-ce que quand même ces poissons qui nagent extrêmement lentement, c'est ce que vous nous disiez, on peut les considérer comme de grands migrateurs quand même ou pas ?
Alors oui, de grands migrateurs, mais j'allais dire, pour migrer loin, on peut dire qu'on peut ménager sa monture, c'est un petit peu ce que fait le requin du Groenland. Mais ce qui m'interpelle par rapport à sa vitesse, c'est que, on l'a compris avec le début de l'intervention, c'est un charognard, en gros. Et qui dit charognard dit je me nourris sur des carcasses évidemment immobiles. Mais ce qu'on arrive on a du mal à expliquer, c'est que finalement ça reste un super prédateur capable de capturer des poids extrêmement agiles comme des phoques, des otaries, même des belugas, vous voyez, qui eux se meuvent à des vitesses beaucoup plus rapides. Et j'avoue que, enfin, il faut avouer qu'on ne sait pas trop comment il s'y prend. On pense que le plus probable, c'est qu'il joue sur sa robe, finalement, qui lui permet de chasser probablement à l'affût, voyez, en minimisant des efforts très courts, mais forcément violents, pour capturer quand même ces proies extrêmement mobiles.
Ouais, donc ça n'est pas forcément un handicap pour la chasse, hein, cette lenteur extrême
cas, on voit surtout le côté émergé de l'iceberg et cette lenteur, mais on n'a jamais pu, étant donné les conditions dans lesquelles il vit, le surprendre, je dirais, sur des rushs fulgurants et violents qui lui permettraient de capturer ses proies, dont on a la preuve, qu'il les consomme. On a retrouvé par exemple des morsures spécifiques à ce requin-là sur des belugas.
En tout cas, si vous souhaitez voir à quoi ressemble ce requin du Groenland, on vous a mis évidemment une photo en story sur le compte Instagram de la Terre au Carré. Et puis dans un instant, Pierre Delaroche, vous nous expliquerez quels sont peut-être les secrets révélés par vos travaux sur la longévité exceptionnelle, multicentenaire, on le disait tout à l'heure, de ce requin du Groenland. Et puis vous répondrez bien sûr aux messages et aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Pour croiser la route du plus vieux des vertébrés, il faut s'aventurer là où ne règne que l'obscurité. Dans les profondeurs de l'Arctique, voici le requin du Groenland qui traverse lentement les océans et le temps. Une espèce à la longévité unique, spécificité découverte par ses scientifiques.
Ils ont trouvé une longévité pour le plus gros individu qu'ils ont pu capturer, équivalent à peu près 392 ans, plus ou moins 120 ans, pour un spécimen de 5 mètres. On parle de siècles.
Samuel Iglesias du Muséum National d'Histoire Naturelle avec un reportage de France 2. En août dernier, ce requin multicentenaire des eaux glacées dans la Terre au carré. On s'intéresse donc au requin du Groenland avec nos invités Éric Lua, ethno-écologue vétérinaire, et Pierre Delaroche, étudiant en doctorat. Éric Lua, à quel moment est-ce qu'on a compris précisément que ce requin pouvait être très âgé? Parce qu'il faut le comprendre, ça, oui, quand même. Hein, dans l'histoire de la science, ça prend un petit peu de temps.
Tout à fait. Et finalement, si on regarde les dates, c'est assez précoce, enfin à notre échelle, puisque c'est dans les années 60. Pour être plus précis, c'est même l'année 1963.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce
moment-là? Alors voilà, on a un scientifique danois, donc qui mérite, je pense, d'être cité, qui s'appelle Poul Marinus Hansen. Et alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on appelle une recapture, c'est-à-dire qu'il a capturé un individu qui avait d'ailleurs une certaine taille, je me souviens pas exactement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet individu-là avait déjà été capturé et donc
plusieurs années auparavant,
et mesuré, on va dire, avec rigueur. Et lorsqu'il a remesuré cet animal, il a vu qu'il y avait une différence en 8 ans, puisqu'en l'occurrence on savait quand est-ce qu'on l'avait capturé la première fois, en 8 ans, il avait grandi de 16 cm.
Seulement.
Alors, oui, voilà.
C'est pas beaucoup.
C'est ça qu'il faut comprendre, parce que si on rajoute... Alors, on pourrait dire 16 cm, bon, finalement, c'est pas mal, hein.
Ouais, en 8 ans.
En 8 ans, c'est pas mal pour un homme. Mais pour un animal qui peut atteindre au-delà, comme vous l'avez dit, Mathieu, tout à l'heure, plus de 7 mètres, on a commencé à se gratter la tête, à se dire, attendez, qu'est-ce qui se passe, quoi? Cet animal-là, il était en panne, ou alors est-ce que c'est inhérent, comme c'était le cas, à cette espèce-là, qui finalement grandit extrêmement lentement.
Donc 2 cm par an à peu près.
On est même à moins de 2, il y a d'autres calculs qui ont été faits plus précis, on est plutôt à 1 cm par an, vous voyez.
Ouais. Donc Pierre Delaroche, là effectivement, ça a mis la puce à l'oreille à ces scientifiques dans les années 60, mais en réalité, il a fallu attendre encore un peu plus longtemps avant d'avoir de vrais résultats scientifiques sur cette question.
Oui, mais en fait, il a fallu même attendre des enquêtes, il me semble que c'est basé sur des meurtres d'enfants, en fait, où il s'est rendu compte qu'il pouvait dater les cadavres à partir du cristallin des individus. C'est d'ailleurs comme ça que John Flank Stephenson est rentré en contact avec des enquêteurs danois qui lui ont parlé de cette méthode. Et très vite, il s'est rendu compte que c'est une méthode qui pourrait être intéressante pour les requins, parce que si vous voulez, ce sont des poissons cartilagineux, donc ils n'ont pas d'eau, comme par exemple chez les poissons osseux. Vous avez une structure dans l'oreille interne qui s'appelle l'otolithe, à partir de laquelle vous pouvez dater l'âge des poissons, mais cette structure est absente chez les requins.
Éric Lua, c'est quoi cette histoire de poisson mangeur d'enfants?
Alors, ce à quoi, avec justesse, Pierre fait référence, c'est la datation carbone, finalement, hein, qu'on connaît par ailleurs. Sauf que, si on veut être précis dans la datation carbone, il faut prendre des protéines, en l'occurrence, qui contiennent du carbone. Alors, on parle de carbone 14. C'est quoi? C'est un isotope du carbone 12. Le carbone 12, lui, est très stable. L'isotope du carbone 14, lui, il se délite au fil des années et on sait à quelle vitesse. Et on sait, en l'occurrence, sur les 50 000 dernières années, combien on a de carbone, je dirais, 14 dans l'atmosphère. Donc, il fallait, comme l'a suggéré Pierre, trouver une protéine qui contient ce carbone 14 et qui ne soit pas altéré au cours de la vie de l'individu. Mmh. Et c'est comme ça
donc
qu'on en est arrivé.
On parle du requin. Hein,
on parle du requin, bien évidemment. Alors Pierre disait ça marche chez l'homme aussi, bien évidemment. Et en l'occurrence, le cristallin est un excellent puits pour ces informations-là, puisqu'il y a des protéines qui naissent, je dirais, avec l'individu, y compris à l'état embryonnaire, et qui ne s'altèrent absolument pas au cours de la vie de ce même individu. Donc on arrive à être très précis sur la proportion de carbone 14 dans ces protéines donc issues du cristallin. On les compare à ce qu'il y avait à l'extérieur de l'animal lorsqu'il est né et pendant qu'il a vécu, et c'est comme ça qu'on est arrivé alors à une évaluation, il faut le souligner, qui est extrêmement, je dirais, large, hein, puisque on parle
plus ou moins
un écart type de 120 d'un siècle, ouais. 120 années, et on est sur 392, qui est une moyenne finalement.
C'est ça. Donc on peut avoir des individus qui pourraient atteindre les 500 ans. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui auraient pu connaître
tout à fait
Michel-Ange ou Copernic,
tout à
et qui sera encore dans les eaux aujourd'hui, en train de
encore
nager,
vivant. Hein, ouais. Encore vivant.
Alors pardon, vous n'avez pas répondu à ma question, mais c'est quoi ce rapport entre les enfants là et les requins? C'est-à-dire qu'il y a des accidents mortels aussi?
Non, je pense que Pierre faisait, enfin il me corrigera si je me trompe, mais je pense qu'il faisait référence à la datation carbone qui est utilisée pour donner un âge précis à des enfants dont on ne connaît pas l'âge. Hein. C'est en gros des humains. Hein. Pierre, tu me corriges si je me trompe, mais a priori c'est à ça que tu faisais référence, à la datation carbone.
Oui, c'est ça, notamment c'était employé à la base dans des enquêtes criminelles.
Alors cette longévité, ça fait l'objet de vos travaux, précisément Pierre Delaroche. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme indice intéressant? Parce que je disais tout à l'heure, vous travaillez sur le cœur en particulier de ce requin. C'est là qu'il faut aller quand on veut vraiment essayer de comprendre cette longévité exceptionnelle du requin du Groenland?
Alors évidemment, le vieillissement à caractère général, ça est caractérisé par un dysfonctionnement général de la physiologie de l'organisme. Le cœur est intéressant notamment par rapport à l'homme, parce que les maladies cardiovasculaires représentent un gros pourcentage des décès, notamment liés au vieillissement. Mmh. Donc c'est pour ça que, en particulier, oui, le cœur est intéressant d'être étudié chez ce requin. Oui.
Alors, vous avez étudié plusieurs aspects, hein, justement, autour du cœur, autour des muscles, autour des tissus. S'il fallait faire un résumé, finalement, de tout ce que vous avez découvert à travers ces différentes recherches, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ces signatures du vieillissement dans le cœur du requin du Groenland, alors ?
D'accord, bah en fait, dans le laboratoire de ma superviseuse Holly Shields, il y a plusieurs études qui sont menées. Notamment, elle s'est intéressée à l'aspect histologique, donc le tissu en lui-même, pour montrer que le cœur du requin du Groenland a tendance à accumuler du collagène avec l'âge. Mmh. Donc, du coup, ce qui correspond à du vieillissement normal. Mais en revanche, les artères coronaires ne semblent pas être altérées. Donc, ça semble être une résistance au vieillissement. Pour ce qui concerne mon propre sujet doctoral, je me suis intéressé aux cellules musculaires cardiaques, notamment je me suis intéressé au noyau des cellules et aux mitochondries, en fait, qui sont les organites qui fabriquent l'énergie des cellules. Et en fait, j'ai trouvé que quand on compare, par exemple, le vieillissement normal humain ou même chez des gens atteints de vieillissement prématuré, donc les progéria, le noyau a tendance à être déformé. Ce qui ne se passe pas lorsqu'on compare la forme des noyaux de requins du Groenland de différents âges. Et pareil, pour ce qui concerne la forme des mitochondries, leur fonctionnement, il ne semble pas non plus qu'il y ait d'altération liée à l'âge.
Donc il y a moins d'altération, effectivement, ça vous l'observez en l'étudiant, sur les cellules musculaires cardiaques, hein, de ce requin. Je crois que vous êtes aussi intéressé à l'endommagement de l'ADN, en tout cas il y a des équipes qui ont travaillé là-dessus. Est-ce qu'on peut dire finalement que ce poisson a aussi une meilleure capacité à réparer son ADN, ce qui pourrait expliquer aussi cette longévité exceptionnelle ?
Bah oui, effectivement, c'est ce que peuvent démontrer mes travaux, notamment par le fait que la forme du noyau ne soit pas altérée. Donc également, des travaux sont en cours dans notre laboratoire pour élucider cet aspect. Mmh. Peut-être qu'on y viendra plus en détail, mais par rapport au génome, en fait, il y a des indices qui laissent penser qu'effectivement, il y a des adaptations génétiques, en fait, qui favoriseraient la réparation de l'ADN.
Mmh. Éric Lua, la question du génome, elle est centrale aussi pour expliquer.
Elle est centrale. Alors, effectivement, ce que fait Pierre avec son équipe est une partie, je dirais, du puzzle qui est lié à ces questions qu'on se pose sur comment fait le requin pour être du Groenland, pour vivre aussi vieux. Je pense qu'on peut généraliser en disant que la réponse est probablement au niveau du génome. Et ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'il y a une étude intéressante, je pense, à ce niveau-là, c'est qu'elle a été faite, alors non pas sur les requins, mais sur les mérous. On s'est aperçu, en prenant des mérous d'une même espèce, le genre Sébastès, où on avait des individus à la fois de petite taille et qui dépassaient difficilement 10 ans, et des individus de grosse taille qui, eux, dépassaient 100 ans, et on a comparé le génome, parce que c'est quand même des animaux très proches les uns des autres. Et on s'est aperçu de quoi ? On s'est aperçu finalement que le volume du génome était beaucoup plus important chez ceux qui arrivaient à vivre plus vieux, et si je dis ça, c'est parce qu'évidemment, vous me voyez venir, le requin du Groenland a un génome d'une taille exceptionnelle, elle a été même calculée récemment, il y a à peine moins d'un an de ça, et il est à plus de 4 gigabytes, si vous voulez, je dirais en termes de volume de séquences génomiques. Et que veut dire cette augmentation du génome ? C'est parce que justement, alors on peut considérer le génome, je dirais, comme une boîte à outils, vous voyez, où on a des outils de base, mais on peut avoir aussi des outils qui servent à réparer les outils, si je peux m'exprimer ainsi. Sauf que cette boîte à outils, si on a cette deuxième classe d'outils va être encore plus grosse. Et c'est ce qui se passe en fait avec le requin du Groenland. On peut le comparer à d'autres requins, vous savez probablement, en tout cas si vous ne le savez pas, c'est intéressant, le requin de baleine arrive à 130-150 ans aussi. Ouais. Hein. Et le requin baleine, on le connaît moins que le requin blanc, qui lui n'arrive, je dirais, qu'à 80 ans. En tout cas, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont un génome pléthorique et on s'aperçoit que ce rajout, en fait, de base, c'est souvent des outils de réparation, d'auto-réparation du génome qui, évidemment, favorise le vieillissement.
On verra si ces découvertes pourraient aussi intéresser la médecine humaine, hein, parce qu'il y a certainement des choses aussi dont on pourrait s'inspirer sur la réparation en particulier de l'ADN. Et puis vous répondrez dans un instant aux messages, aux questions au sujet du requin du Groenland, voire d'autres requins d'ailleurs. Franceinter.fr et la page de la Terre au Carré.
Mathieu Vidard. La Terre au carré.
John Stephenson est le spécialiste du requin du Groenland. L'un des plus gros avec le requin blanc. John sillonne la mer pour en capturer et les étudier. Mais leur nage et leur comportement restent méconnus. Nos images en profondeur pourraient lui apporter des réponses.
Nous avons équipé des requins que nous avons capturés il y a 3 ans avec des balises satellites pour étudier la profondeur de leur plongée. Ils sont descendus jusqu'à 1700 mètres.
1700 mètres ?
Apparemment, ils suivent le fond. Ils restent à 200 ou 300 mètres longtemps et puis ils plongent. Mais on ne sait pas exactement ce qu'ils font. On ne sait pas où ils sont. Mais...
Le biologiste John Stephenson, extrait d'un documentaire de Thalassa en 2016, sous les glaces du Groenland. Éric Lua, Pierre Delaroche, vous êtes nos invités cet après-midi pour parler donc de la longévité exceptionnelle de ce requin. On le disait, pratiquement 500 ans pour certains individus. Même si, Éric Lua, la question reste très débattue au sein de la communauté scientifique. Ça crée quelques polémiques quand même, cette affaire.
Alors oui, sur la résilience de cette espèce-là, puisqu'il y a une polémique actuellement entre deux équipes, en tout cas de chercheurs, à travers le monde. L'une, pour faire simple, qui dit que la modalité de reproduction... Alors ils sont d'accord, on va commencer par être positif, ouais. Ils sont d'accord sur la modalité de reproduction du requin du Groenland, qui est la viviparité. Alors, lécitotrophique, alors ça c'est un mot barbare pour dire quoi ? La viviparité c'est quoi ? C'est notre modalité à nous de reproduction, c'est-à-dire qu'on a un fœtus qui est alimenté par un placenta avec un cordon ombilical. Donc, l'écitotrophie, c'est un petit peu la même chose sans le cordon. Mais vous concevez bien qu'il y a une marque, il y a une perte en ligne, je dirais, quelque part, en particulier pour tout ce qui est transfert d'oxygène. Bref, une première équipe s'appuie sur ces difficultés ou cette rusticité du transfert d'oxygène entre la mère, évidemment, et les embryons, pour dire que une femelle pourrait guère avoir plus d'embryons viables au-delà de 10, 15 embryons. Ce qui est relativement peu et qui voudrait dire qu'évidemment, cette espèce-là est extrêmement vulnérable. Mais une autre équipe dit que elles ont des preuves, alors c'est vrai qu'il y a des photos et autres qui très suggestives, qui disent que ça pourrait aller jusqu'à 200-300 embryons. Vous voyez qu'évidemment, c'est, ouais. C'est une vraie polémique.
Et sur la longévité, il y a discussion aussi là-dessus ou pas ?
Alors, beaucoup moins. Il n'y a pas de polémique, et je dirais tant mieux, parce que c'est quand même, je dirais, une source d'information très intéressante, de comprendre ces mécanismes liés à la longévité, ou même à la gestion des, je dirais, des tumeurs, ou l'immunologie aussi des requins, qui est, on le sait, largement au-dessus de la moyenne en termes d'efficacité.
Ouais. En tout cas, Pierre Delaroche, ce qui est vrai, c'est qu'à partir de 2016, et cette étude-là dont on parlait tout à l'heure, les connaissances ont quand même fait un pas de géant autour de cet animal.
Oui, clairement, et puis on les doit beaucoup à Julius Nielsen, qui était étudiant doctorat de John Fleck Stephenson, qui a contribué à la découverte de la longévité de ce requin, et qui a également œuvré beaucoup en la connaissance de la biologie, dont la reproduction. D'ailleurs, je pense qu'Eric Lula faisait référence aussi, parce qu'il y a une critique du genre de Julius à notre équipe par rapport à la modalité de la reproduction. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de recherches.
Éric Lua, sur la maturité sexuelle, du coup, avec ses âges canoniques, à quel âge un individu mâle ou femelle est-il considéré comme étant à sa maturité ?
Bah écoutez, alors, on a affiné justement les tailles. Au début, on disait 3 mètres pour le mâle et 4,5 pour la femelle. Pour le mâle, on pourrait descendre à 2,80 et 4,20, 4,30 pour la femelle. Alors, certes, elle fait 4 mètres 30, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui fait, ce qui mérite d'être mentionné, c'est qu'à cette taille-là, notre femelle, elle a 150 ans.
Ouais. 150 ans, maturité sexuelle.
Tout à fait. Donc vous imaginez le peu d'efficacité qui est propre au requin en général, et en particulier à cette espèce-là. Il faut attendre 150 ans chez un individu femelle avant qu'elle puisse se mettre bas. Alors après, il y a la polémique de savoir est-ce qu'elle met bas de 10 jeunes requins ou de 200. Et j'allais dire, dans les deux cas, cette maturité est très extrêmement pénalisante et il faut en tenir compte pour la survie de l'espèce.
Exactement. Espèce considérée comme vulnérable aujourd'hui, Éric Lua ?
Alors oui, pas autant qu'on pourrait le croire, parce que finalement, moi-même, je suis un petit peu surpris, je dirais, du statut de ce requin-là, qui semble, paradoxalement, plus résilient qu'on le croirait. Je ne sais pas si Pierre a des informations plus précises là-dessus, mais il est évidemment en danger, mais pas autant qu'on pourrait le croire.
Par rapport à d'autres espèces même de requins ?
Oui, alors voilà, moi je porte ce regard très général, on est bien d'accord, je ne suis pas spécialiste du requin du Groenland, plutôt un spécialiste généraliste sur d'autres espèces, et honnêtement, lorsque je me suis intéressé à cette espèce-là, je ne m'attendais pas à un positionnement aussi favorable de cette espèce-là, qui, selon moi, est très pénalisée par sa biologie.
Pierre Delaroche, sur justement les menaces qui pèsent sur le requin du Groenland, qui a été donc abondamment pêché dans le passé, vous le disiez rapidement tout à l'heure, pour son foie, hein, pour l'huile de foie, utilisée dans l'éclairage par exemple, ou la production de vitamine A. Aujourd'hui, cette pêche ciblée, elle a cessé quand même autour de ce requin ?
Oui, je pense que les pêches ciblées aujourd'hui doivent demeurer marginales, parce que je sais que sa viande est consommée en Islande pour un maître traditionnel qui s'appelle le hakarl. Mm-hmm. Mais sinon... on estime que justement l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, estime que 3500 requins du Groenland meurent chaque année, mais comme en tant que prise de pêche accessoire, donc, c'est-à-dire qu'ils sont pêchés en même temps que d'autres espèces ciblées, mais qui sont ils meurent pour rien en fait quelque part.
Eric Luas, qui est plutôt mieux que pour les autres espèces de requins, où là on assiste à des hécatombes.
Alors oui et non, mais je me dois de rebondir sur ce concept de pêche accessoire que vient d'évoquer Pierre, parce que c'est vraiment pour moi le cœur de la compréhension du problème des requins. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience, on ne peut pas le nier, nous, scientifiques, au contact de ces problématiques de conservation, mais on se retrouve face à un mur où on a des professionnels, en particulier de la pêche, qui nous disent « Non mais voilà, nous on ne veut plus attraper de requins ». Le problème, si vous voulez, c'est que ça ne suffit pas, si je peux m'exprimer ainsi, d'ailleurs... On a publié un article il y a deux ans dans Nature avec des collègues à l'échelle mondiale où on montre quoi ? On montre que finalement, la géographie de ces pêches industrielles qui font quoi ? Qui mettent par exemple un calmar au bout d'un hameçon, font que si on fait ça, et même si on veut pêcher un marlin ou un thon, on va finir par attraper un requin, que ce soit un requin bleu, que ce soit un requin longimane, ou que ce soit un requin du Groenland. Donc on a ce vrai problème des pêches accessoires où on continue à tuer des requins et beaucoup de gens, de professionnels, se réfugient derrière le fait que « Ah non, mais nous, on ne veut pas les tuer. » Oui, mais le problème, c'est qu'on les tue quand même.
Et avec des nombres impressionnants, hein, chaque année.
Et évidemment, je veux dire, l'hécatombe n'a pas cessé. Elle a diminué en intensité, mais l'hécatombe n'a pas cessé.
Sans compter les pêches volontaires, pour les ailerons, par exemple.
Hein. Alors, il y a en plus, effectivement, des pêches volontaires. Il y a quelques pêches, je dirais, certes durables, il faut le reconnaître, et avec déontologie scientifique, reconnaître qu'on peut être durable. Mais je veux dire, pour un exemple de pêche durable dans le monde, des lasmobranches, alors j'y mets aussi les raies, par exemple, et ce genre de choses, globalement, on est sur une problématique avec l'ensemble des espèces et à cause de la pêche accessoire.
Allez, on va passer aux questions. Elles sont pour vous. Frédéric, sur la page de la Terre au Carré, demande « Quel est l'intérêt d'une vie aussi longue, Eric Luas, 500 ans ? Est-ce une stratégie de survie ?»
Je dirais que c'est... je verrais ça plus comme une adaptation au milieu. J'ai envie de dire, en admettant, il m'en voudra pas, la personne qui a posé la question ne m'en voudra pas, un petit peu d'humour, c'est qu'il va tellement lent et tellement lentement sous l'eau qu'il ne se passe pas grand-chose quand même à l'endroit où il est. Donc peut-être qu'il faut qu'il vive très longtemps finalement pour voir autant de choses que ses autres compars, ses cousins requins.
Bon, Pierre Delaroche, c'est quoi votre réponse à vous là-dessus ?
C'est peut-être tout simplement le fait qu'il n'ait pas de prédateur naturel et ni de compétiteur pour le moment dans son environnement. Donc, tout simplement, il doit avoir des facteurs écologiques qui favorisent sa longévité, plus peut-être des facteurs génétiques.
Pauline nous dit « Je remarque que vous parlez de poissons concernant le requin. Alors je m'interroge car je croyais que c'était un mammifère, à l'instar de la baleine et du dauphin. Par ailleurs, Pierre Delaroche évoque les poissons osseux. Devons-nous comprendre des poissons avec des arêtes à opposer aux mollusques par avance, merci pour votre réponse. Éric Lua.
Ben là, on va reprendre les choses au début. Il faut savoir que chez les poissons, pour faire très simple, on a des poissons qu'on qualifie de osseux. C'est ceux qui ont en général ce qu'on appelle des arêtes, en tout cas osseuses. Mmh. Alors que les requins sont des poissons cartilagineux. Donc, ils ont des vertèbres qui sont cartilagineuses. Ils posent un problème aux archéologues. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut retrouver des requins à travers les âges, les siècles et autres, ce sont essentiellement les dents et que les dents.
Alors, mammifère ou pas mammifère ?
Non, poisson.
Voilà, tout simplement. Et puis on termine avec Agnès qui nous dit « J'écoute votre émission en ce moment, je m'interroge pourquoi aller emmerder ce requin vénérable qui n'a rien demandé ? Pourquoi dépenser cet argent et toute cette énergie ? On ne parle jamais de l'empreinte carbone de ce genre d'expédition. Pourquoi aller ajouter de la pollution dans ces espaces fragiles ?»
Alors, je vais être assez direct et j'espère que c'est un...
N'ouvrez pas une polémique maintenant, non, il nous reste 30 secondes.
Mais on a quand même beaucoup à apprendre du requin. Je suis le premier à le regretter, mais je pense que fort de ce qu'on va apprendre, par exemple, sur les mécanismes de longévité, pourquoi pas un gène antitumoral qu'on a retrouvé chez ce requin-là, l'homme peut apprendre et le mettre, je dirais, au bénéfice d'Homo sapiens, même si ça peut paraître un petit peu... aidez-moi, Mathieu, le terme... Alors, moi, je dis cynique, vous préférez...
Cynique, ça me paraît pas mal.
Ouais, cynique, c'est pas mal. Mais utilisons tout ce qu'on peut utiliser pour obtenir la conservation de ces animaux sur notre planète.
Bon, on n'a pas le temps de développer cette réponse, mais ça mériterait plus d'éléments, effectivement, sur l'empreinte carbone de ces expéditions. Merci, en tout cas, à tous les deux. Éric Lua et Pierre Delaroche, merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier.